Chapitre 6. Le complot de Favra, c'était celui de Monsieur. Le complot de Maillebois, qu'on découvre en mars, se rattache au comte d'Artois, à l'émigration. La cour, sans les ignorer, paraissait suivre plutôt le conseil que l'on trouva dans le mémoire d'Augéard, garde des sceaux de la reine, ruser, attendre, simuler la confiance, laisser filer 5 ou 6 mois. Même mot d'ordre à Vienne, à Paris. Léopold de négocier. Il mettait les gouvernements soi-disant amis de la liberté, les faux révolutionnaires, j'entends l'Angleterre et la Prusse, à une sérieuse épreuve. Il les plaçait en face de la révolution, et peu à peu il laissait tomber le masque. Léopold disait aux Anglais « Vous plaît-il que je sois forcé de céder à la France une partie des Pays-Bas ?» Et l'Angleterre reculait. Elle sacrifiait devant cette peur l'espoir de s'emparer d'Ostende. Aux Prussiens, aux Allemands en général, ils disaient « Pouvons-nous délaisser nos princes allemands possessionnés en Alsace qui perdent leurs droits féodaux ?» La Prusse elle-même, le 16 février, avait déjà parlé pour eux, proclamé le droit de l'Empire de demander raison à la France. L'Europe entière des deux parties, d'une part Autriche et Russie, d'autre part Angleterre et Prusse, gravitait peu à peu vers une même pensée, la haine de la Révolution. Seulement, il y avait cette différence que la libérale Angleterre, la philosophique Prusse, avait besoin d'un peu de temps pour passer d'un pôle à l'autre, pour se décider à se démentir, s'abjurer, se renier, avouer ce qu'elles étaient, les ennemies de la liberté. Ce respectable combat de la honte et de la pudeur devait être mené par l'Autriche. Donc, à attendre, il y avait infiniment à gagner. Encore un moment, tout le monde, les honnêtes gens, allaient se trouver d'accord. Seule alors, que ferait la France? De quel poids énorme allait peser contre elle tout à l'heure l'Autriche assistée de l'Europe? Rien n'empêchait, en attendant, de donner aux révolutionnaires de France et de Belgique de bonnes paroles, de les endormir si l'on pouvait, de les diviser. Dès que Léopold fut empereur, 20 février, dès qu'il eut publié son étrange manifeste où il adopte les principes de la révolution belge, avoue la légalité de l'insurrection contre l'empereur, de mars, son ambassadeur, M. Mercy d'Argenteau, décida Marie-Antoinette à surmonter ses répugnances, à se rapprocher de Mirabeau. Mais quelle que fût la facilité du caractère de l'orateur, son éternel besoin d'argent, le rapprochement était difficile. On l'avait dédaigné, repoussé, au moment où il pouvait être utile. Et on venait le chercher lorsque tout était compromis, perdu peut-être. En novembre, on s'était entendu avec les députés les plus révolutionnaires pour fermer à Mirabeau le ministère pour toujours. Maintenant, on l'appelait. On l'appelait à une entreprise impossible, après tant d'imprudence et 3 complots avortés. L'ambassadeur d'Autriche se chargea lui-même de faire revenir de Belgique l'homme qui pouvait le mieux servir d'intermédiaire, M. de Lamarque, ami personnel de Mirabeau, et personnellement aussi tout dévoué à la reine. Il revint. Le 15 mars, il porta à Mirabeau les ouvertures de la cour, le trouva très froid. Son bon sens lui faisait sentir que la cour lui proposait seulement de se noyer avec elle. Pressé par Lamarque, il dit qu'on ne pouvait relever le trône qu'en s'appuyant sur la liberté, que si la cour voulait autre chose, il la combattrait, loin de la servir. Quelle garantie pouvait le rassurer là-dessus? Il venait lui-même de proclamer devant l'Assemblée combien peu il se fiait au pouvoir exécutif. Pour le rassurer, Louis XVI écrivit à Lamarque qu'il n'avait jamais désiré qu'un pouvoir limité par les lois. Pendant cette négociation, la cour en menait une autre avec Lafayette. Le roi lui promettait par écrit la confiance la plus entière. Le 14 avril, il lui demanda ses idées sur la prérogative royale, et Lafayette avait la simplicité de les lui donner. Sérieusement, que voulait la cour? Amuser, rien de plus. Endormir Lafayette, neutraliser Mirabeau, amortir son action, le tenir partagé entre les tendances diverses, peut-être aussi le compromettre, comme on avait compromis Necker. La cour mit toujours sa profonde politique à perdre et ruiner ses sauveurs. Exactement à la même époque, et de la même manière, le frère de la reine, Léopold, négocie avec les progressistes belges, les compromettait, puis, menacé par le peuple, dénoncé et poursuivi, les amenait à désirer l'invasion, le rétablissement de l'Autriche. Comment croire que ces démarches du frère et de la sœur, précisément identiques, se soient accordées par hasard? Mirabeau devait bien y regarder à 2 fois avant de se fier à la cour. C'était le moment où le roi, cédant aux exigences de l'Assemblée, lui livra le fameux livre rouge, dont nous parlerons tout à l'heure, et l'honneur de tant de gens. Tous les pensionnaires secrets virent leur nom chanté par les rues. qui pouvait assurer Mirabeau que la cour ne jugerait pas utile, dans quelque temps, de publier aussi son traité. La négociation n'était pas fort rassurante. On avançait, on reculait. On ne lui confiait rien du tout, et on lui demandait ses secrets, la pensée de son parti. On ne jouait pas ainsi avec un tel homme. Il fallait l'avoir pour ami ou pour ennemi, le combattre à mort ou se jeter dans ses bras. Quelles que fussent au fond ses tendances royalistes, il était impossible d'aveugler entièrement un homme de ton esprit. Il allait en attendant. Organe de la révolution, il ne lui manquait jamais dans les moments décisifs. On aurait pu le gagner, on ne pouvait l'amortir, l'énerver, le neutraliser. Quand la situation parlait, à l'instant le Mirabeau vicieux, corrompu, disparaissait, le dieu entrait en lui, la patrie agissait par lui et lançait la foudre. Dans un seul mois, avril, où la cour traînait, marchandait, finassait, la foudre frappa deux fois. La première, que nous remettons au chapitre suivant pour réunir toute l'affaire du clergé, c'est la fameuse apostrophe sur Charles IX et la Saint-Barthélemy, qui est dans toutes les mémoires. « Je vois d'ici la fenêtre », etc. Jamais les prêtres n'avaient reçu sur la tête un coup si pesant. 13 avril. La seconde affaire, non moins grave, fut la question de savoir si l'Assemblée se dissoudrait. Les pouvoirs de plusieurs députés étaient bornés à un an, et cette année finissait. Déjà avant le 6 octobre, on avait proposé, et avec raison alors, de dissoudre l'Assemblée. La cour attendait, épiait le moment de la dissolution. L'entracte, le moment toujours périlleux entre l'Assemblée qui n'est plus et celle qui n'est pas encore. Qui régnerait dans l'intervalle, sinon le roi par ordonnance? Le pouvoir une fois repris, l'épée une fois ressaisie, c'était à lui de la garder. Maury, Casalès, dans des discours pleins de force mais irritants, provoquants, demandèrent à l'Assemblée si ses pouvoirs étaient illimités, si elle se croyait une convention nationale. Ils insistaient sur cette distinction de convention, d'assemblée, de législature. Ces arguties poussèrent Mirabeau dans une de ces magnifiques colères qui montaient jusqu'au sublime. Vous demandez comment, de députés de bailliage, nous nous sommes fait convention? Je répondrai, le jour où, trouvant notre salle fermée, hérissée, souillée de baïonnettes, nous courûmes au premier lieu qui put nous réunir et jurâmes de périr plus tôt. Ce jour-là, si nous n'étions convention, nous le sommes devenus. Qu'ils aillent chercher maintenant dans la vaine nomenclature des publicistes la définition de ces mots, convention nationale. Messieurs, vous connaissez tous le trait de ce Romain qui, pour sauver sa patrie d'une grande conspiration, avait été contraint d'outrepasser les pouvoirs que lui conféraient les lois. Un tribun captieux exigea de lui le serment de les avoir respectés. Il croyait, par cet insidieux interrogat, placer le consul dans l'alternative d'un parjure ou d'un aveu embarrassant. « Je jure, dit le grand homme, je jure que j'ai sauvé la République. Messieurs, je jure que vous avez sauvé la chose publique. » À ce magnifique serment, l'Assemblée se lève tout entière et décrète « Point d'élection, que la Constitution ne soit achevée. » Les royalistes furent atterrés. Plusieurs néanmoins pensaient que l'espoir de leur parti, l'élection nouvelle, eût bien pu tourner contre eux, qu'elle eût amené peut-être une assemblée plus hostile, plus violente. Dans l'immense fermentation du royaume, dans l'ébullition croissante, qui pouvait être sûr de m'y avoir? La simple organisation des municipalités remuait la France dans sa profondeur. Elle se formait à peine et déjà, à côté d'elle, s'organisaient des sociétés, des clubs pour les surveiller. Sociétés redoutables mais utiles. Et éminemment utile dans une telle crise, organe, instrument nécessaire de la défiance publique en présence de tant de complots. Les clubs iront grandissant. Il le faut. La situation le veut ainsi. Cette époque n'est pas encore celle de leur plus grande puissance. Pour la France, c'est l'époque des fédérations, mais déjà les clubs règnent à Paris. Paris semble veiller pour la France. Paris reste à l'OTAN, debout, tenant ses 60 districts assemblés en permanence, n'agissant pas après d'agir. Il écoute, il s'inquiète. Vous diriez la sentinelle à deux pas de l'ennemi. Le cri « Prenez garde à vous !» s'entend à chaque heure. Deux voix le poussent sans cesse, du club des Cordeliers, du club des Jacobins. J'y pénètre au prochain livre dans ces antres redoutables. Ici, je m'abstiens d'y entrer. Les Jacobins ne sont pas caractérisés encore. Ils sont à leur premier âge, âge bâtard, constitutionnel, où règnent chez eux les Duport et les Lamettes. Le caractère principal de ces grands laboratoires d'agitation, de surveillance publique, de ces puissantes machines, je parle surtout des Jacobins, c'est que, comme en toute machine, l'action collective y dominait de beaucoup l'action individuelle, que l'individu le plus fort, le plus héroïque y perdait ses avantages. Dans les sociétés de ce genre, la médiocrité active monte à l'importance, le génie pèse très peu. Aussi, Mirabeau n'allait jamais volontiers au club. Il n'appartenait exclusivement à aucun. Il faisait de courtes visites, passait une heure aux Jacobins, une heure dans la même soirée au club de 89 qu'avait formé au Palais Royal Sieyès, Bailly, Lafayette, Chapelier et Talleyrand, 13 mai. Club élégant, magnifique, nul d'action. La vraie force était au vieux couvent enfumé des Jacobins. La domination d'intrigue, de parlage facile et vulgaire qui exerçait souverainement le triumvirat de Duport, Barnabé et Lamette, ne contribua pas peu à rendre Mirabeau accessible aux suggestions de la cour. Homme de contradiction. Au fond, qu'était-il? Royaliste, noble quand même? Et quelle était son action? Toute contraire à coups de foudre, il brisait la royauté. S'il voulait enfin la défendre, il lui fallait se hâter. Elle enfonçait d'heure en heure. Elle avait perdu Paris. Il lui restait en province de grandes foules dispersées. Par quel art pouvait-on faire un faisceau? C'est à quoi Mirabeau rêvait. Il projetait d'organiser une vaste correspondance, sans doute à l'instar, à l'encontre de celle des Jacobins. Telle fut la base du traité de Mirabeau avec la cour, 10 mai. Il lui constituait chez lui une sorte de ministère de l'esprit public. Dans ce but ou sous ce prétexte, il reçut de l'argent, un traitement fixe. Et comme il était dans ses habitudes de faire tout avec audace, le mal et le bien, il prit un train de maison, voiture, table ouverte et le petit hôtel de la chaussée d'Antin qui subsiste encore. Tout cela n'était que trop clair. Il lui parut bien mieux quand, du milieu du côté gauche, on le vit parler avec la droite pour la royauté, pour lui faire donner l'initiative de la paix ou de la guerre. Le roi avait perdu l'intérieur puis la justice. Les juges comme les magistrats municipaux échappaient à son action. Si on lui ôtait la guerre, y avait-il encore royauté? Voilà ce que dit Cazalès. Barnabé et le côté opposé trouvaient mille réponses sans dire un mot de la meilleure. C'est que le roi était suspect. C'est que la révolution ne s'était faite qu'en brisant l'épée dans la main du roi. C'est que de tous les pouvoirs, celui qu'il était le plus dangereux de lui laisser dans les mains, c'était justement la guerre. L'occasion du débat était celle-ci. L'Angleterre avait été alarmée de voir la Belgique tendre la main à la France. Elle commençait à s'effrayer, tout comme l'empereur et la Prusse, d'une révolution vivace, contagieuse, qui gagnait, et par son ardeur et pour son caractère de généralité, plus que nationale, humaine, très contraire au génie anglais. Un homme de talent, passionné et vénal, l'Irlandais Burke, élève des jésuites de Saint-Omer, lança aux chambres une furieuse philippique contre la révolution, laquelle lui fut payée comptant par son adversaire, M. L'Angleterre n'attaqua pas la France, mais elle abandonna la Belgique à l'empereur. Elle alla au bout du monde chercher querelle sur les mers à notre allié, l'Espagne. Louis XVI fit savoir à l'Assemblée qu'il armait 14 vaisseaux. Là-dessus, une longue, immense discussion théorique sur la question générale. À qui appartient l'initiative de la guerre? Peu ou rien sur la question particulière qui pourtant dominait l'autre. Tout le monde semblait l'éviter et la fuir, avait peur de la voir. Paris n'en avait pas peur. Paris l'envisageait en face. Tout le monde sentait, disait que si le roi avait l'épée, la révolution périssait. Il y avait 50 000 hommes aux Tuileries, à la place Vendôme, dans la rue Saint-Honoré, attendant avec une inexprimable anxiété, recueillant évidemment les billets qu'on leur jetait des fenêtres de l'Assemblée, pour leur faire suivre de moment en moment le progrès de la discussion. Tous étaient indignés et exaspérés contre Mirabeau. À l'entrée, à la sortie, l'un lui montrait une corde et l'autre des pistolets. Il fit preuve de sang-froid. Dans un moment même où Barnabé occupait la tribune de ses longs discours, croyant avoir saisi le point où il le terrasserait, Mirabeau n'en écouta pas davantage. Il alla promener aux Tuileries, au milieu de cette foule, fit sa cour à la jeune et ardente Madame de Staël, qui était là aussi à attendre avec le peuple. Son courage n'en rendait pas sa cause meilleure. Il triomphait de dire sur la question théorique, sur l'association naturelle, dans ce grand acte de la guerre, entre la pensée et la force, entre l'Assemblée et le roi. Toute cette métaphysique ne pouvait masquer la situation. Ses ennemis employèrent un moyen peu parlementaire qui touchait de près à l'assassinat, pouvait le faire mettre en pièces. Ils firent écrire, imprimer la nuit, répandre à libelle atroce. Le matin, allant à l'Assemblée, Mirabeau entendit crier partout « La grande trahison découverte du comte de Mirabeau !» Le péril, comme il lui arrivait toujours, l'inspira admirablement. Il écrasa ses ennemis. « Je savais bien qu'il n'y a pas loin du Capitole à la roche tarpéienne, etc. » Il triompha sur la question personnelle. Sur l'affaire même en litige, il recula habilement. À la première ouverture que lui donna la proposition d'une rédaction moins hardie, il fit sa retraite, céda sur la forme et gagna le fond. Il fut décidé que le roi avait le droit de faire les préparatifs, de diriger les forces comme il voulait, qu'il proposait la guerre à l'assemblée, laquelle ne décidait rien qui ne fût sanctionné par le roi. En sortant, Barnabe, Duport, Lamette, qui s'en allaient désespérés, furent applaudis, portés presque par le peuple qui croyait avoir vaincu. Ils n'eurent pas le courage de lui dire la vérité. Dans la réalité, la cour avait l'avantage. Elle venait d'éprouver deux fois la force de Mirabeau, en avril contre elle, et pour elle en mai. En cette dernière occasion, il avait fait des efforts plus qu'humains, sacrifié sa popularité, hasardé sa vie. La reine lui accorda une entrevue, la seule selon toute apparence qu'il ait eue jamais. Autre faiblesse en cet homme qu'on ne peut dissimuler, quelques marques de confiance, exagérées sans doute par le zèle de Lamarque qui voulait les rapprocher, montèrent l'imagination du grand orateur, crédule comme sont les artistes. Il attribua à la reine une supériorité de génie de caractère qu'elle ne montrait nullement. D'autre part, il crut aisément, dans sa force et son orgueil, que celui à qui nul homme ne résistait entraînerait sans difficulté la volonté d'une femme. Il eût été le ministre d'une reine plus volontiers que d'un roi, le ministre ou bien l'amant. La reine était alors avec le roi à Saint-Cloud. Entourée par la garde nationale, généralement bienveillante, il s'y trouvait dans une demi-captivité assez libre, puisque tous les jours ils allaient se promener sans garde et souvent à quelques lieux. Il y avait cependant beaucoup de bonnes gens, de bon cœur, qui ne pouvaient supporter l'idée d'un roi, d'une reine prisonnier de leur sujet. Un jour, dans l'après-midi, la reine entend un petit bruit dans la cour solitaire de Saint-Cloud. Elle lève le rideau et voit sous son balcon environ 50 personnes, femmes de campagne, prêtres, vieux chevaliers de Saint-Louis, qui pleuraient à demi-voix et retenaient leurs sanglots. Mirabeau ne pouvait être à l'épreuve de pareilles impressions. Resté malgré tous ses vices, homme d'ardente imagination, de passion orageuse, il trouvait quelque bonheur à se sentir l'appui, le défenseur, le libérateur peut-être, d'une belle reine prisonnière. Le mystère de l'entrevue ajoutait à l'émotion. Il vint non pas en voiture mais à cheval pour ne pas attirer l'attention. Il fut reçu non au château, mais dans un lieu très solitaire, au point le plus élevé du parc réservé, dans un kiosque qui couronne ce jardin d'Armide. C'était à la fin de mai. Mirabeau a été alors très visiblement atteint du mal qui le mit au tombeau. Je ne parle pas de ses excès, de ses prodigieuses fatigues. Non, Mirabeau ne mourut que de la haine du peuple. Adoré, puis conspué. Avoir eu son prodigieux triomphe de Provence, où il se sentit pressé sur le sein de la patrie. Puis, en mai 90, le peuple, dans les Tuileries, le demandant pour le pendre. Lui-même faisant face à l'orage, sans pouvoir être soutenu par une bonne conscience, mettant la main sur sa poitrine et n'y sentant que l'argent reçu ce matin de la cour. Tout cela bouillonnait ensemble, colère, honte, vague espoir mêlés dans cet âme trouble. Un teint obscur, gris, peu net, des yeux malades et rougis, un commencement de pesanteur et d'obésité malsaine, des joues affaissées, tel était sur son cheval, montant lentement l'avenue de Saint-Cloud, atteint, blessé, non brisé, le violent Mirabeau. Et la reine dans son pavillon. Combien aussi elle est changée. Les 35 ans apparaissent. L'âge touchant que tant de fois c'est plus à peindre Fendick, ajoutait des nuances délicates, légèrement violacées, qui révèlent un mal profond. Malade, profondément malade, et à ne guérir jamais. Malade de cœur et de corps. Elle lutte, on le voit bien. La tête haute, les yeux secs, mais qui ne témoignent que trop qu'elle pleure toutes les nuits. Sa dignité naturelle, celle du courage et du malheur qui sont une autre royauté, défendent toute défiance. Il a bien besoin de la croire, celui qui se dévoue pour elle. Elle fut surprise de voir que cet homme haï, décrié, cet homme fatal par qui a parlé la Révolution, ce monstre enfin était un homme. Qu'il avait un charme particulier de délicatesse qu'une telle énergie semble exclure. Selon toutes les apparences, l'entretien fut vague, nullement concluant. La reine avait sa pensée qu'elle gardait, Mirabeau la sienne qu'il ne cachait nullement, sauvait à la fois le roi et la liberté. Quelle langue commune entre eux ! Au moment de terminer, Mirabeau s'adressant à la femme autant qu'à la reine, par une galanterie à la fois respectueuse et hardie. « Madame, lorsque votre auguste mère admettait un de ses sujets à l'honneur de sa présence, jamais elle ne le congédiait sans lui donner sa main à baiser. » La reine présenta la sienne. Mirabeau s'inclina, puis, relevant la tête, il dit avec un accent plein d'âme et de fierté « Madame, la monarchie est sauvée. » Il s'en alla, tout ému, comblé, trompé. La reine écrivait à son agent en Allemagne, M. de Flash London, qu'on se servait de Mirabeau, mais qu'il n'y avait rien de sérieux dans les rapports qu'on avait avec lui. Au moment même où il venait au prix de sa popularité, presque de sa vie, d'emporter sur deux genres de décrets qui au fond rendaient au roi le droit de paix et de guerre, le roi faisait chercher aux archives du Parlement les vieilles formes de protestation contre les états généraux, voulant en faire une secrète contre tous les décrets de l'Assemblée, 23 mai. Grâce à Dieu, le salut de la France ne dépendait pas de ce grand homme crédule et de cette cour trompeuse. Un décret rend l'épée au roi, mais cette épée est brisée. Le soldat redevient peuple, se mêle au peuple, fraternise avec le peuple. Monsieur de Bouillé nous apprend dans ses mémoires qu'il ne négligeait rien pour mettre en opposition le soldat et le peuple, pour inspirer aux militaires la haine et le mépris du bourgeois. Les officiers avaient saisi avidement une occasion de faire monter cette haine plus haut encore, jusqu'à l'Assemblée nationale, de la calomnier auprès du soldat. En des plus fermes patriotes, Dubois de Crancé avait exposé à l'Assemblée la triste composition de l'armée, recrutée en grande partie de mauvais sujets. Il tirait de là la nécessité d'une organisation nouvelle qui devait faire de l'armée ce qu'elle a été, la fleur de la France. Ce fut justement de ces paroles bienveillantes pour le militaire, de cette tentative pour réformer et réhabiliter l'armée que l'on abusa. Les officiers allaient disant, répétant aux soldats que l'Assemblée l'outrageait. La cour en conçut de grandes espérances. Elle crut qu'elle allait ressaisir l'armée. Des bureaux du ministère, on écrivait au commandant de l'île ces paroles significatives. Tous les jours, nous prenons un peu de consistance. Qu'on veuille nous oublier et ne nous compter pour rien, et bientôt, nous serons tout. Vaine espérance! Pouvait-on croire que le soldat fermerait longtemps les yeux? Qu'il verrait sans émotion cet enivrant spectacle de la fraternité de la France? Qu'au moment où la patrie était retrouvée seule, il s'obstinerait à rester hors de la patrie? Que la caserne, le camp, serait comme une île séparée du reste du monde? Il est alarmant sans doute de voir l'armée qui délibère, qui distingue, choisit dans l'obéissance. Ici pourtant, comment pouvait-il en être autrement? Si le soldat obéissait aveuglément à l'autorité, il désobéissait à l'autorité suprême d'où procèdent toutes les autres. Docile à ses officiers, il se trouvait infailliblement rebelle au chef de ses chefs, à la loi. S'abstenir, ne pas agir, il ne le pouvait. La contre-révolution ne l'entendait pas ainsi. Elle lui commandait de tirer sur la Révolution, sur la France, sur le peuple, sur son père, son frère qui lui tendait les bras. Les officiers lui apparurent ce qu'ils étaient, l'ennemi. Un peuple à part qui était de plus en plus d'autres races, d'autres natures. Comme les vieux pêcheurs endurcis s'enfoncent dans leurs péchés en avançant vers la mort, l'ancien régime, vers sa fin, était plus dur et plus injuste. Les hauts grades ne se donnaient plus qu'aux jeunes gens de la cour, aux petits protégés des dames. Le ministre Bombaré a raconté lui-même la scène violente, indécente, que la reine lui fit pour un jeune colonel. Les moindres grades, accessibles encore sous Louis XIV et sous Louis XV, ne furent donnés sous Louis XVI qu'à ceux qui pouvaient prouver 4 degrés de noblesse. Faber, Catinat, Chevert n'auraient pu arriver au grade de lieutenant. J'ai dit le budget de la guerre en 1784. 46 millions pour l'officier, 44 pour le soldat. Pourquoi dire soldat? Mendiant serait le mot propre. La solde, relativement forte au XVIIe siècle, vient à rien sous Louis XV. Sous Louis XVI, il est vrai, une autre solde s'ajoute, payée en coups de bâton. C'était pour imiter la fameuse discipline de Prusse. On crut que c'était là tout le secret des victoires du grand Frédéric. L'homme mené comme une machine et châtié comme un enfant. Le pire des systèmes à coup sûr, unissant les mots opposés, système à la fois mécanique et non mécanique, d'une part fatalement dur, de l'autre violemment arbitraire. Les officiers méprisaient souverainement le soldat, le bourgeois, toute espèce d'homme et ne cachaient pas ce mépris. Pourquoi? Pour qu'elle s'y au mérite? Un seul, il tirait bien l'épée. Le préjugé si respectable qui met la vie des braves à la discrétion des adroits constitue à ceci une sorte de tyrannie. Ils essayèrent à l'Assemblée même ce genre d'intimidation. Dans la chambre de la noblesse, certains membres tirèrent l'épée pour empêcher les autres de s'unir au tiers-état. La Bourdonnée, Noailles, Castries, Casalès provoquèrent Barnave et Lameth. Tel adressait à Mirabeau de grossières injures dans l'espoir de s'en défaire. Il fut immuable. Plus au ciel que le plus grand homme de mer de ce temps, Suffrène lui était aussi. Selon une tradition qui n'est que trop vraisemblable, un jeune fat de grande naissance eut l'insolence coupable d'appeler cet homme héroïque dont la vie sacrée n'appartenait qu'à la France. Lui, déjà sur l'âge, il eut la bonhomie de répondre et reçut un coup d'épée. Le jeune homme était bien en cour, l'affaire fut étouffée. Qui fut ravi? L'Angleterre. pour ainsi beaucoup d'épées, elle lui donnait des mignons. Le peuple n'eut jamais l'esprit de comprendre ce point d'honneur. Les Balzins, les Patrices qui défiaient tout le monde, s'en trouvèrent très mal. L'épée de l'émigration cassa, comme verre, sous le sabre de la République. Si nos officiers de terre qui n'avaient rien fait étaient pourtant si insolents, qu'était-ce donc, grand Dieu, des officiers de marine? Depuis leur dernier succès, qui pourtant ne furent le plus souvent que de brillants duels de vaisseau à vaisseau, ils ne se connaissaient plus. Leur orgueil était exalté jusqu'à la férocité. Un des leurs avait le malheur de déroger jusqu'à fréquenter un ancien camarade devenu officier de terre. Ils le forcèrent de se battre avec lui pour se laver de ses crimes. Chose affreuse, il le tua. Un officier de marine, Acton, était comme roi de Naples. Les Vaudreuils entouraient la reine et le comte d'Artois de leur conseil violent. Les officiers de marine, les Bonchamps, les Marigny, aussitôt que la France eut toute l'Europe en face, lui plantèrent dans le dos le poignard de la Vendée. Le premier coup à leur orgueil, ce fut Toulon qui le porta. Là commandait le très brave, très insolent, très dur, Albert de Reims, un de nos meilleurs capitaines. Il croyait mener les deux villes et l'arsenal et Toulon, justement de même manière, comme une chiourme de forçats, à coups de cordes et de lianes, protégeant la cocarde noire, punissant la tricolore. Il se fiait à un pacte que ses officiers de marine avaient fait avec ceux de terre contre les gardes nationaux. Quand ceux-ci vinrent réclamer, les magistrats en tête, il les reçut comme il eût fait des galériens de l'arsenal. Alors, un peuple furieux entoure l'hôtel du commandant. Alors, il commande le feu, et pas un soldat ne tire. Alors, il lui faut prier les magistrats de la ville de lui accorder secours. Les gardes nationaux qui les avaient insultés eurent grand-peine à le défendre. Ils ne parvinrent à le sauver qu'en le mettant au cachot. À Lille, on essaya de mettre aux prises les troupes et la garde nationale, même d'armer les régiments entre eux. Le commandant Livaro, on le voit par ses lettres inédites, les animait en leur parlant de la prétendue injure que Dubois de Crancé avait faite à l'armée dans l'Assemblée nationale. L'Assemblée ne répondit qu'en améliorant le sort du soldat, lui témoignant du moins intérêt, comme on le pouvait alors, par l'augmentation de quelques deniers qu'on ajouta à la solde. Ce qui l'encouragea bien plus, ce fut de voir qu'à Paris, M. de Lafayette avait porté tous les sous-officiers au grade supérieur. La franchissable barrière était donc enfin rompue. Pauvre soldat de l'Ancien Régime qui si longtemps avait souffert sans espoir et en silence. Sans être les prodigieux soldats de la République et de l'Empire, ils n'étaient pas indignes d'avoir aussi enfin leur jour. Tout ce que je lis d'eux dans nos vieilles histoires m'étonne comme patience et me touche comme bonté. Je les vois à La Rochelle, entrant dans la ville affamée, donnant leur pain aux habitants. Leurs tyrans, leurs officiers qui leur fermaient toute carrière, ne trouvaient en eux que docilité, respect, douceur et bienveillance. Dans je ne sais quelle affaire, sous Louis XV, un officier de 14 ans, à peine arrivé de Versailles, ne pouvait plus avancer. « Passe-le-moi, » dit un grenadier gigantesque, « je le mettrai sur mon dos. S'il y a une balle à recevoir, je la sauverai à l'enfant. » Il fallait bien qu'à la fin il y eut un jour pour la justice, l'égalité et la nature. Heureux ceux qui vécurent assez pour le voir. Et ce fut pour tous un bonheur. Quelle joie pour la Bretagne de retrouver encore, après de 100 ans, dans son humble état de pilote, le pilote de Duguay-Trouin, celui dont la main ferme et froide menait le vainqueur sous le feu. Jean Robin, de l'île de Batz, fut reconnu aux élections et d'un accord unanime placé près du président. On rougissait pour la France d'une si longue injustice. On eût voulu, dans la personne de cet homme vénérable, honorer tant de générations héroïques, indignement méconnues, rabaissées pendant leur vie par l'insolence de ceux qui profitèrent de leur service, puis vouées, hélas, à l'oubli.